Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en ce dimanche de baptême. C'est un jour de joie, un jour de fête sur la terre et dans le ciel. Amen. Je nous invite à lire le chapitre 28, le dernier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Ça sera une petite exhortation, on va plutôt s'exhorter mutuellement sur les derniers versets, mais je pense qu'il est bon de lire tout le chapitre, il n'est pas si long que ça. Chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu, le dernier donc du livre de Matthieu. Après le Shabbat, comme le jour commençait à poindre, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Et tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Amen. Venez voir l'endroit où il était couché. Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez aucune crainte, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré entre eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle court jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent point que penser. Ou dans d'autres versions, certains eut des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Jésus avait commencé d'enseigner en Galilée. C'est ce qu'on lit au chapitre 4 de cet évangile de Matthieu. Il avait commencé disant ceci, « Changez, car le royaume des cieux s'est approché. » Et c'est ainsi qu'il avait appelé à sa suite ses premiers disciples. Tout l'évangile de Matthieu nous donne, nous montre ses miracles, tout ce qu'il a fait, mais surtout tout ce qu'il a dit. Plusieurs enseignements dans l'évangile de Matthieu, dont peut-être le plus célèbre que nous avons médité toute l'année passée, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre 7. 3 années pendant lesquelles Jésus a sillonné Israël avec ses disciples. Et finalement, il est arrêté, mis à mort. Pour quelle véritable raison? Parce qu'il s'est fait l'égal de Dieu, se présentant lui comme le Fils de Dieu. C'est ça la vraie raison de son exécution. Au jour de son arrestation, tous ses nombreux disciples l'ont abandonné. Jésus est mis à mort, mis au tombeau. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Un héros, comme il y en a tant dans l'histoire humaine. Et puis tout s'arrête. Et puis là, il est dit au premier verset de ce chapitre 28, « Après le Shabbat, comme le jour il commençait à poindre, le dimanche matin, voilà que ces femmes partent au tombeau et rencontrent un ange qui leur dit que ce Jésus que vous cherchez, qui était bel et bien mort, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il est ressuscité comme il l'avait dit, mais vous ne l'aviez pas compris. Il est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Jésus lui-même apparaît à ces femmes et leur dit, oui, dites à mes disciples. Je ne sais pas si vous avez vu la petite nuance. Verset 7. L'ange dit aux femmes, allez vite annoncer à ses disciples, c'est-à-dire aux disciples de Jésus, qu'il est ressuscité. Mais quand Jésus lui-même parle de ses disciples à ses femmes, qu'est-ce qu'il dit? Allez dire à mes frères, verset 10, qu'ils doivent se rendre en Galilée. Ce ne sont plus simplement ses disciples, ce sont ses frères. Pendant ces versets que nous avons lus, la première proclamation qui doit résonner dans nos oreilles en ce matin, c'est que Christ est mort, cela n'a aucun doute, mais qu'il est ressuscité. L'ange l'a dit, Jésus lui-même l'a dit, les femmes sont chargées d'annoncer ce message. Quand on a une bonne nouvelle, on l'annonce, sinon ça sert à quoi? Une bonne nouvelle est là pour être annoncée. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et Jésus va donner une deuxième proclamation incroyable. Là, on va plus se concentrer sur les derniers versets de ce texte. Verset 18. Jésus s'approcha d'eux, de ses disciples, de ses frères, et leur parla ainsi, j'ai reçu tout pouvoir m'a été donné, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je répète, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Quand on lit ce genre de versets comme ça dans une méditation quotidienne, on risque fort de tomber dans une espèce de routine. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ah, j'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir. Mes frères et sœurs, ce qu'il est en train de dire là, Jésus, c'est juste énorme. Tout pouvoir m'a été donné dans tout l'univers. En se présentant à Abraham, là on revient au tout début de la Bible, à la Genèse, Dieu s'est présenté comme le tout puissant. Il y a un seul tout puissant quand on lit la Bible. C'est Dieu. Et là Jésus dit, en gros ce qu'il est en train de dire, je suis le tout puissant, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je pense qu'il faut mesurer la portée énorme de ce qu'il proclame. seul Seigneur dans l'univers, un seul souverain, un seul roi. Il n'y en a pas deux. Jésus-Christ. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. J'essaie de me mettre quand même dans la peau de ses disciples. Ils ont quand même connu un Jésus plutôt modeste. Hein. C'était pas du bling-bling avec Jésus quand même. C'était pas un flambeur. Hein. C'était humble. Il disait qu'il n'avait même pas de maison où poser sa tête. Donc il... C'est vrai, il faisait des miracles. Mais quand même, c'était quelqu'un de humble. Puis là, il se présente devant nous, ressuscité, et puis il dit, vous savez quoi? J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent se dire dans leur tête? Tout ce qu'ils ont entendu Jésus dire depuis 3 ans, ça doit résonner dans leur tête. Ils se disent, mais c'est qui celui-là? Il avait déjà parlé de sa mort. Matthieu chapitre 26. En disant, prenez ceci et mangez ce pain. C'est mon corps. Prenez ce vin, prenez cette coupe et c'est mon sang qui sera versé pour beaucoup afin que leurs péchés soient pardonnés. Il avait déjà parlé de sa résurrection. Il avait déjà lui-même ressuscité Lazare. Et lors de cet fameux épisode, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il avait dit au chef des prêtres, détruisez ce temple. Et moi, je le reconstruirai, je le rebâtirai en 3 jours. Jésus, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? De quoi il parle? Et l'évangéliste de dire, mais en fait, il parlait de son corps, de sa résurrection, qui allait intervenir 3 jours après sa mort. J'imagine que tout ça, ça bouillonne dans leur tête. Et il a dit que certains eurent des doutes. Parce que, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. L'apôtre Paul, dans son épître, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 1, nous dit ceci, que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance lors de la résurrection. La résurrection de Jésus est là pour prouver que Dieu l'a approuvé. Oui, c'est bien lui mon fils. Et Jésus donc de dire, voilà, je suis ressuscité. J'ai reçu tout pouvoir. Sur cette base d'un Jésus tout puissant, Jésus va leur laisser un commandement. Il dit ensuite, allez donc. C'est-à-dire, maintenant que j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, vous pouvez, à cause de ça, sur cette base, aller. Allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Le vrai mot, ce n'est pas peuple, c'est ethnie. Parmi toutes les nations, parmi toutes les ethnies du monde. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi toutes les ethnies, toutes les nations, tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Si on devait traduire encore plus fidèlement ce texte, on dirait ceci. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi toutes les nations, parmi tous les peuples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez la différence? L'idée fondamentale, c'est de faire des nations des disciples de ce Jésus qui a reçu tout pouvoir. Et comment faire des disciples? Il faut les enseigner. Il faut leur enseigner à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce commandement, les disciples l'ont mis en application. Partant de Jérusalem, de la Judée, à Samarie, en Israël. Et on voit plusieurs qui vont dans d'autres nations, notamment Paul. Enseigner à obéir et baptiser. Est-il besoin de beaucoup commenter ça? Je crains que oui. Parce que des fois, on oublie ce que ça implique. Enseignez-leur à obéir. Voyez, c'est pas juste enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. De sorte à ce que eux, ils aient un bon bagage, comme vous. Ah oui, pendant 3 ans, dis donc, je vous ai bien enseigné. Là, quand même, vous êtes prêts à bien transmettre. C'est pas juste, c'est pas seulement donner quelque chose, un contenu, du savoir, une connaissance pour remplir la tête, pour connaître la Bible de A à Z par cœur. C'est pas que ça. C'est important, mais c'est bien plus que ça. Enseignez-leur à... Je veux que toute l'assemblée répète. Enseignez-leur à...
Obéir.
Enseignez-leur à...
Obéir.
Enseignez-leur à...
Obéir.
Amen. Quel défi. On a dans notre assemblée plusieurs personnes qui sont des enseignants. C'est facile d'enseigner. Mais de là à faire comprendre, adhérer, échanger, afin que l'autre l'applique vraiment dans sa vie, qui peut le faire? Mais c'est ça que Jésus leur demande, enseignez-leur à obéir. Ça implique que vous-même qui enseignez, et ceux qui sont à la chaire ont une responsabilité particulière par rapport à ça, vous devez déjà vivre ce que vous enseignez. Mais oui, ils doivent obéir à votre enseignement. Ils doivent aussi vous imiter comme imitant le Christ. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Pour ceux qui étaient là à notre réunion de prière vendredi, le pasteur Sylvain Lombé nous a expliqué que toute la parole de Christ, c'est la parole que Christ a dite. Et c'est la parole qui concerne Christ. Autrement dit, c'est toute la parole biblique. C'est pas seulement le Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament parle de Jésus. Enseignez-leur toute la Bible, toute ma parole, tout ce qui me concerne, mais enseignez-leur à y obéir. Et baptisez-les. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Baptisez-les, oui. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je cherchais Nathalie du regard. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême biblique, un baptême qui consiste à être plongé dans l'eau. Baptiser, c'est simplement un mot qui veut dire plonger, immerger. Et c'est ce qu'on va faire là, dans quelques minutes. Plongez-les dans l'eau. Oui. Bon, c'est un rite un peu curieux, mais pourquoi pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, c'est pas juste plonger dans l'eau pour faire oh, coucou et puis je ressens pas, c'est chouette. Non. Il faut en comprendre la portée, le sens. Plongez-les dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça implique? D'abord, le nom du Père. C'est Dieu. Celui qui accepte tout l'enseignement de Jésus et qui accepte de lui obéir, reconnaît que c'est Dieu lui-même qui a envoyé ce Jésus. Que toute chose dépendent de Dieu. Toute sa vie dépend de Dieu. Je me plonge dans l'eau Je m'abandonne entre les mains du Dieu qui sait tout. Le nom de Jésus-Christ, et là c'est fondamental. L'apôtre Paul l'explique en Romains 6. On ne va pas prendre le temps de le lire en détail. Mais il explique le symbole du baptême par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. Être plongé dans l'eau, c'est proclamer qu'on est mort avec Jésus à la croix de Golgotha. Et sortir de l'eau, c'est proclamer qu'on est vivant avec Jésus-Christ ressuscité. Vivant, mais d'une nouvelle vie par le Saint-Esprit. L'eau, c'est sur la peau, d'accord? Quand elle va sortir de l'eau, quelqu'un va lui donner une serviette, elle va s'essuyer et puis il n'y aura plus d'eau. Mais quelle en est la réalité spirituelle derrière? C'est que Dieu, par l'Esprit Saint, a opéré quelque chose dans le cœur de Nathalie. Et c'est ça qu'on proclame en baptisant au nom du Saint-Esprit. Je fais remarquer que ce n'est pas au nom avec X à O et S à nom. C'est un seul nom. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes distinctes, mais le même Dieu, portant le même nom. Voici un texte qui, je pense, aussi pose les bases de ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité n'est pas un mot qui se trouve dans la Bible, mais l'idée portée par la Trinité est abondamment relayée dans la Bible. Dieu le Père est Dieu. Jésus-Christ est Dieu le Fils et le Saint-Esprit est aussi Dieu. Toute la vie du chrétien est baignée dans sa relation avec ces trois personnes. Vous voyez, il y a une expression en français. Quand par exemple, je me passionne, je me passionne de foot. On dit, je suis tombé dans le foot. Ou je me passionne de cuisine. Tu sais quoi, là, je suis tombé dans la cuisine et là, voilà. Le chrétien est tombé dans le nom de Jésus, dans le nom de Dieu le Père et dans le nom du Saint-Esprit. Toute sa vie désormais baigne dans sa relation avec ces trois personnes. Je me suis dit, mais dis donc, ça alors, Jésus, il est ressuscité, il dit qu'il a tous les pouvoirs. Et à cette poignée de disciples, il leur donne un défi si grand. Allez, de toutes les nations. Mais ça, c'est une mission qui est impossible. C'est pour ça que les disciples eux-mêmes ont eu besoin du Saint-Esprit. Et c'est la suite de l'évangile que nous lisons dans les Actes des Apôtres. La sœur Léon salue une section du chapitre 2. Il a fallu eux-mêmes qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en abondance pour pouvoir accomplir cette mission, d'annoncer cette bonne nouvelle, de faire des disciples et de baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres permet de voir comment eux, ils ont mis en pratique tout ce que Jésus a dit. On voit les disciples avant la résurrection qui abandonnent Jésus. Et le meilleur exemple, c'est Pierre qui le réunit trois fois. Ah non, je ne le connais surtout pas. Acte 2, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Acte chapitre 5, on ne va pas le lire, on voit qu'ils enseignent. En plein Jérusalem, ils n'ont plus peur. Ils mettent en pratique ce que Jésus a dit. Enseigner à obéir. Ils font des disciples. Ils se font arrêter. Et qu'est-ce qu'il leur est dit? Arrêtez de répandre votre enseignement. Ici, c'est bon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais nous ne voulons plus que vous enseigniez cette histoire de Jésus. Qu'est-ce qu'ils répondent? Nous devons obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Ils se font emprisonner. Ils se font libérer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils persistent et signent dans l'enseignement, dans les baptêmes. Vous voyez? Et c'est ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes invités à suivre comme exemple. Enseigner à obéir et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nathalie a fait le choix de se confier en Dieu, en Jésus-Christ, a fait le choix de se confier dans le Saint-Esprit pour obéir. Qu'en est-il de nous qui allons assister tout à l'heure à ce baptême? Peut-être que tu es déjà baptisé. Alléluia! Dans ce cas, ce baptême peut être l'occasion de renouveler ton engagement envers le Seigneur. Ou alors peut-être que tu es en chemin, tu n'es pas encore baptisé. Ce texte nous montre que le baptême n'est pas une option. Tu veux, tu veux pas. C'est un commandement de Jésus-Christ. Je t'invite à y réfléchir et à demander le baptême. Peut-être pour l'instant tu restes encore à distance, tu ne sais pas. Sache que Dieu t'aime et que c'est par amour pour toi aussi qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, tu aies le pardon des péchés et la vie éternelle. Et Jésus de terminer sur cette promesse, et ce sera le mot de la fin, le dernier verset, il dit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense que Matthieu a fait exprès pour finir son texte sur cette parole. C'est pas possible de dire quelque chose de plus fort et de plus beau. Parce que c'est, j'ai reçu tout pouvoir. Et je suis avec toi. Chaque jour. Jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi que Matthieu finit son évangile. Est-ce que nous prenons conscience que Jésus est avec nous tous les jours? Est-ce que j'ai confiance en lui? Ou bien c'est bon le dimanche et puis après je me débrouille moi-même parce que Jésus il est mignon mais franchement la vie elle est trop galère et mes choses n'avancent pas. Donc Jésus il a besoin d'un petit coup de pouce. Il a peut-être une toute partie de ma vie qui a échappé à son pouvoir, hein, c'est dommage. Non, 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 non. J'ai reçu tout pouvoir, c'est aussi pour toi, pour moi. Pour t'encourager, te soutenir, te corriger si cela est nécessaire, chaque jour. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous aide dans le nom de son Fils, dans le nom de son Saint-Esprit, dans son nom à lui, à vraiment saisir cette parole avec toute sa profondeur et sa vérité et sa puissance. J'ai reçu tout pouvoir et je suis avec vous tous les jours. Amen.